Le programme qui va suivre est une rediffusion. Bah si, si, on fait ça aussi.
Langue de Fronde, une émission féministe, meuf, gouin, trans.
Langue de Fronde.
Langue. Langue de Fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la
Bonsoir,
mujer...
vous êtes bien sur FPP 106.3 FM, dans l'émission Langue de Fronde, une émission meuf, queen, trans. Avec aujourd'hui Pauline.
Salut.
Cla.
Salut.
Donc moi-même Théo et notre invitée des LOX, Sabrine.
Bonsoir.
Et en technique, Maïk et Céline.
Salut.
Salut, salut.
Et voilà, donc aujourd'hui nous aurons une émission un peu en deux parties mélangées, avec une première partie où Langue de Fronde est partie en mission reportage, jeudi à Saint-Denis, pour la première du document Ouvrir la voie d'Amandine Gay, qui est donc sur... Enfin, on vous laissera découvrir parce qu'elle va vous le présenter elle-même, mais sur la parole, ça donne la parole aux personnes noires. Voilà.
Et après ce moment qu'on passera avec Amandine Gay, on aura donc une discussion avec Sabrine des Lesbian of Colox, les LOX, et qu'on retrouve donc juste après un premier extrait d'interview avec Amandine Gay.
Je fais une série d'avant-premières en fait en France et puis en Belgique suisse, et l'objectif c'est de trouver une distribution professionnelle pour qu'ils sortent en salle vraiment un peu partout, ce qui évitera effectivement que les personnes aient besoin de solliciter leurs cinémas locaux tout seuls et toutes seules. Ce serait bien. C'est vraiment basé sur mon expérience, c'est-à-dire le fait d'être au croisement de plein de discriminations possibles. Mais pour ce qui est de l'intersection des discriminations, de toute façon, le film, il suit mon parcours. Puis c'est une mise en... C'est comme un dialogue entre mon parcours et celui des participantes dans le film. Donc le film, il commence au moment où on découvre qu'on est noir et ce que ça veut dire socialement, au jour où on décide ou non de quitter la France, puisque moi, je suis partie vivre au Canada. Et puis j'y introduis un peu tout ce que moi, j'ai vécu. Donc les enjeux liés à la religion, à l'orientation sexuelle, à son corps aussi, qu'est-ce que ça veut dire à la maternité, et d'essayer de montrer aussi parce que voilà, j'ai un parcours féministe qui considère que le privé est politique. Donc pour moi aussi, c'était vraiment... c'est un film aussi sur l'avant-conscientisation, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on te dit « Ah, tu sais, les Noires, elles sont trop chaudes, sexy, panthères, et puis t'as 14 ans, puis tu comprends pas ce qui t'arrive, en fait. » Et ça, pour moi, c'était vraiment important, parce que je pense que quand tu commences à développer une réflexion, tu vas dire « Oui, c'est le continuum colonial et tout, puis tu sais, la personne plus jeune qui est face à toi, ça va pas l'aider, ça. » Par contre, je pense que voir, tu sais, 4-5 filles d'affilée qui disent « Ah non, mais c'est clair, laisse tomber, panthère, féline, c'est trop relou. » Ben là, elle va se dire « Ah, tu sais, c'est déjà arrivé à d'autres personnes avant, il y a quelque chose. » Puis là, elle peut avoir envie de creuser, et là, elle peut aller voir, tu sais, ce qu'il y a derrière. Donc pour moi aussi, c'est en particulier le documentaire, mais pas que d'ailleurs, il y a une dimension d'éducation populaire. Tu sais, comment tu fais passer des idées au plus grand nombre, mais aussi dans quelque chose de proposition. Tu sais, l'éducation populaire aussi, c'est censé être une éducation où t'es pas là pour dominer les gens, puis c'est tout ce truc que disent les afroféministes américaines, les black féministes, c'est est-ce que tu talk out? Et où est-ce que tu talk with, c'est est-ce que tu parles aux gens là, ou est-ce que t'es en train d'avoir une conversation? Et je veux dire voilà, c'est le titre du film, c'est ouvrir la voie, et puis c'est moi je te propose un truc avec un film, et puis il y a des choses qui vont te parler, il y en a qui te parleront pas, il y en a qui vont te heurter, il y en a qui te heurteront pas, et puis tu fais ton chemin, on peut discuter, c'est tant que c'est dans le respect et le calme, on peut discuter, et puis c'est ça l'idée. Ce que je dis souvent, c'est que tu regardes les films français, je sais pas à quel moment j'ai pensé que j'allais pouvoir faire carrière comme comédienne noire. Mais enfin bon, je ne sais pas. Je suis partie comme ça, bille en tête. J'allais faire le conservatoire de théâtre et puis c'était super. Jusqu'à ce que je commence à travailler en fait. Très vite, j'ai passé que des castings où effectivement les rôles c'était droguée, prostituée, stripteaseuse, sans papier. On me demandait de faire l'accent, alors voilà, antillais ou africain, peu importe. Devenir en boubou. Puis moi, c'était vraiment... Moi, c'était surréaliste parce qu'en plus, je revenais d'un an et demi entre l'Australie et l'Angleterre. Et du coup, il y avait vraiment des fois où je pensais que c'était pas vrai, quoi. Je me disais, mais à quel moment tu penses que tous les noirs ont des boubous dans leur placard, par exemple? Je sais pas, c'était vraiment bizarre. Donc, du coup, au début, j'étais surprise. Assez rapidement, j'ai commencé à être vraiment énervée. Et puis, ce que je disais, en fait, je me suis même énervée avec mon agent de l'époque en lui disant, mais arrête de m'envoyer des castings de noirs. Et puis, en fait, elle m'a dit, mais moi, je propose, quand c'est écrit jeune fille 18-25 ans, j'étais plus jeune. Et puis, elle me dit, mais on me répond que si c'est écrit dans le scénario qu'elle est noire. Donc là, je me suis dit, bon, donc j'étais super frustrée, j'étais pas contente, et puis j'avais un ami qui était directeur de casting. Ce pote me dit, mais écris, de toute façon, les comédiens qui veulent vraiment, tu sais, si tu rentres dans une certaine case qui te va pas, le seul moyen de t'en sortir, c'est d'écrire. Donc je lui dis, ok, bon. Et donc, mon objectif, c'était de faire une série féministe qui se voit pas, puisque bon, on est en France, donc faut surtout pas que ça ait l'air féministe ou que ça se dise féministe. Donc je m'étais dit, bon, bah, le principe, déjà, c'est de faire une série qui passe le Bechdel test. Donc je m'étais dit, bon, on va faire une série avec que des meufs, et l'objectif, ça va être qu'elles soient en train de parler de sujets contemporains, mais qui ont trait à la vie des femmes, quoi. Et là, on a plein de rendez-vous avec plein de boîtes de prod à Paris, parce que ça plaît à tout le monde, ah oui, c'est génial, c'est super, un peu de trucs, voilà, une série de femmes, pourquoi pas, tout ça. Et puis, dès qu'on est arrivé au rendez-vous sérieux, là, au deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, là, on commence à comprendre que, bien sûr, on nous a sélectionnés parce que c'est super, c'est frais, c'est novateur, c'est tout ça, mais bon, quand même, on est en France. Il y avait toujours des trucs, tu sais, où, bon, finalement, non. Et puis, effectivement, bah, ce que je raconte à chaque fois, c'est que moi, j'avais glissé le personnage de la sommelière noire et qui se trouvait être lesbienne. Puis alors ça, effectivement, c'était vraiment la quatrième dimension pour tous les gens avec qui on parlait. Oui, c'est super, vous avez trop regardé Sex and the City, ces filles-là, elles n'existent pas, non, on voit l'influence américaine et tout. Puis moi, j'étais là, je me disais, bon voilà, tu vois, moi, j'étais manager de bar avant, je suis pansexuelle, j'étais là, genre, c'est une version de moi. Puis pour moi, c'était surréaliste, encore une fois, d'avoir une conversation avec quelqu'un qui me disait, j'en connais pas, ça n'existe pas. Ce qui était frustrant, c'est qu'à la fin, c'est les producteurs qui ont l'argent. On n'est pas en train de négocier du tout sur un pied d'égalité, parce que toi, tu connais rien, et toutes les idées que moi j'amène, il va falloir que je négocie le moindre truc. Et donc là, je me suis dit, bon, en fait, même l'écriture, ça sert à rien, en tout cas de fiction. Et puis c'est là que je me suis dit, bah, je vais faire un documentaire.
Je fais du doublage. Et j'ai commencé à travailler parce que ils cherchaient des noirs pour doubler des noirs. Dans la tête des gens, j'ai une voix de noir, alors que j'ai absolument pas une voix de noir. Et moi, je sais que l'exemple le plus concret que j'ai, et du coup, j'en avais parlé avec une nana qui m'a dit « Mais si, vous avez des voix de noir, c'est comme la meuf qui double Whoopi Goldberg. » Alors, je lui ai répondu « La meuf qui double Whoopi Goldberg, déjà, elle est métisse. » Donc, est-ce qu'elle a plus une voix de noir ou plus une voix de blanche, je sais pas. Et la nana qui double Whoopi Goldberg, elle double aussi Courteney Cox dans Friends.
J'ai un exemple tout bête, je sais pas si t'as déjà regardé New York Session Criminelle. Il y a une commissaire, donc américaine, hein, qui vit dans Harlem, elle a un accent antillais dans la version française. Donc c'est vraiment, on va résoudre cette affaire. Alors que la fille, elle est de Harlem, et elle est commissaire américano-américaine, quoi.
Si je ne savais pas faire cet accent, je ne travaillerais pas.
Et alors, du coup, est-ce qu'aussi le fait que tu fasses l'accent africain, en fait, toi, tu fais l'accent ivoirien?
Oui. D'une certaine manière, oui.
Parce qu'il y a ça aussi. Oui, c'est oui, que quand on nous demande ça, parce que moi, on me l'a demandé aussi. Mmh. Et moi, je me disais, enfin, l'Afrique, c'est grand, tu vois. Je veux dire, mais les oui, Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, ils n'ont pas du tout le même accent, en fait.
Mais je veux dire, pour les Blancs, ils s'en foutent, quoi. À partir du moment que ça sonne, africain, ou ils n'en ont rien à foutre de savoir d'où ça vient, quoi, tu vois.
C'est comme si tu disais, fais l'accent européen. Ouais, mais l'Europe, c'est un continent, quoi. C'est comme l'Afrique, donc du coup, qu'est-ce que tu veux? Et on est surtout, c'est quoi le propos, quoi? C'est pour défendre quoi? C'est vraiment nécessaire dans ton histoire?
Maintenant, effectivement, j'ai quand même envie que le monde, en tout cas audiovisuel, ressemble à celui dans lequel je vis. C'est-à-dire que... d'avoir une diversité noire et non pas que des sans-papiers en difficulté, immigrés, etc. dans les films. J'ai envie qu'il y ait des étudiants, des cadres aussi, des gens de diverses classes.
Des Noirs en banlieue, bah, y en a plein, on le sait tous très bien, mais les Noirs en banlieue qui ont des pavillons, ça existe, on n'est pas tous dans des HLM, tu vois, rien que ça. On a aussi des petits jardinets, des voitures, et on n'est pas tous en train de fumer de la weed dans le jardin ou de faire des trucs chelous, quoi, merde, tu vois. Tu vas à l'école, y a des Noirs qui sont bons élèves aussi, y a des... Enfin, c'est ça, le truc qu'il faut montrer, c'est que c'est pas genre, on va tous se retrouver à faire un CAP, et à, comme dans Bande de filles, à se dire, bah, ma vie, elle est foutue, je vais aller me prostituer dans le... Tu vois.
Je sais que, par exemple, moi, j'adore les films de super-héros et bah, je suis une grande fan d'X-Men parce qu'il y a le personnage de Mystique et que depuis que je suis toute petite, j'ai été Mystique. C'est super bête, hein, mais c'est parce que dans tous les films que je connais, bah, il y avait Batman, il y avait Superman, il y avait Wonder Woman. Wonder Woman, elle me plaisait pas forcément plus que Superman. Hein. Wonder Woman a été certes une femme, mais moi, elle était blanche, on avait juste un petit peu plus de proximité. Mais pour moi... La vraie personne à laquelle je pouvais m'identifier, c'était Mystique, parce que c'était une femme, et parce qu'elle était noire, et parce qu'en plus, elle contrôlait le vent, c'était génial.
S'il n'y a que des noirs, tout de suite, ça va être, par exemple, si c'est un film où il y a beaucoup de noirs, oui, c'est un film de noirs, mais les films, la plupart que je vois, il n'y a que des blancs, et voilà. Et aussi, le pire, c'est que si on te dit... Il y a que c'est un film de noirs, donc il y a que les noirs qui peuvent y aller. Mais moi, j'ai depuis toute petite, je vois des films de blancs où il y a que des blancs et je peux m'identifier en fait. One time will come that brings a dawn out of a night. One time in life, love comes along. It's really true and very strong. One time will bring friends to a man who sings all alone in his one-man band. One time. A man must be whatever he wishes to be. And all men must see that one time's too much to tell any man that he's not free. One time a smile
vous êtes toujours sur 106.3 FM dans l'émission Langue de Fronde. Vous avez écouté donc une interview d'Amandine Gay, la réalisatrice qui a fait le film Ouvrir la voie, un film qui sort en ce moment pas dans les salles vu les difficultés qu'elle a eues, mais qui sort
dans quelques salles.
Vous avez écouté aussi une musique. Pauline, tu peux nous dire ce que c'était ?
Ouais, c'était Hélène Brown qui vous a chanté One Time et qu'on peut trouver sur Seize the Time de Black Panther Party.
Et voilà. Et maintenant, c'est le temps de commencer avec notre invitée Sabrine. Sabrine, est-ce que tu as envie de nous dire un peu, de te présenter déjà pour commencer, de présenter aussi les LOX dont tu fais partie ?
Bien, oula. Moi, je suis djiboutienne, exilée en France pour des raisons politiques, dont on peut deviner un petit peu ou imaginer un petit peu les raisons exactes. On va dire que c'est pour ma liberté d'expression politique et sexuelle, bien évidemment. Et puis concernant LOX, j'ai cofondé avec Mourouni, une autre exilée lesbienne indienne, le groupe LOX, donc Lesbian of Color, en avril 2009. Et c'était une idée un petit peu de créer un espace de triple non-mixité, femmes, racisées et lesbiennes, avec une intersectionnalité dans l'approche, en tout cas, de la lutte contre ce qu'on appelle les oppressions qu'on subissait et qu'on subit, la lesbophobie, le sexisme, le racisme. Ce ne sont pas des oppressions qui s'additionnent, mais toutes sont liées. Voilà, donc c'est un groupe qui est assez cosmopolite, énormément d'origines, mais on va dire que la base des composantes, c'est on a l'histoire du colonialisme, on a la mémoire de l'esclavage, et puis on a ce continuum colonial à travers notamment les politiques migratoires, qui sont souvent des politiques racistes, néocoloniales, qui nous unit aussi dans nos origines. Donc c'est pour ça qu'il y a des Français d'origine immigrée, mais aussi des exilés, des réfugiés. Voilà.
Et toi, tu te définirais du coup plutôt dans exilé, réfugié, ou... Enfin, est-ce que t'as... Vu que t'es du Djibouti, du coup, t'as...
Réfugié, c'est un terme statutaire, enfin, c'est un terme légal, c'est-à-dire que ça relève de la Convention de Genève de 1951. Pour moi, c'est plutôt l'exil, de toute manière, réfugié ou pas réfugié, à partir du moment où on subit de force un départ du pays. Je l'ai quand même quitté assez tard. Par intermittence d'abord entre la France et Djibouti, puis après il fallait prendre cette décision très douloureuse de partir de Djibouti. Donc c'est l'exil, et c'est quelque chose qui m'a construite aussi, en plus du féminisme et puis de le lesbianisme politique. Donc, voilà.
Et donc tu fondes ce groupe, donc des Lesbian of Color, et tu fais partie encore de ce groupe, et vous avez organisé récemment à Saint-Denis donc des rencontres, voilà, si tu veux nous raconter un peu, ou Pauline aussi, tu étais, pourquoi vous avez fait ces rencontres, de quoi ça parlait et...
C'était un débat qu'on voulait inscrire déjà dans le cadre de la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. L'inscrire doublement parce que la question de la lesbophobie quand on parle des violences faites aux femmes n'est pas souvent, n'émerge pas assez facilement d'une manière assez évidente. Comme s'il n'y avait qu'une seule vision ou qu'une seule violence en fait envers les femmes. Et puis c'était aussi de montrer d'autres stratégies, d'autres énergies par rapport à la lesbophobie. Mais encore une fois, fidèlement à notre un petit peu à notre tradition en fait de solidaire, quoi. C'est-à-dire de sortir en fait de l'espace français, voire même de l'espace européen. Et c'est comme ça qu'on a voulu confronter au fait quatre voix, quatre visions, quatre pays, une activiste lesbienne marocaine qui vit au Maroc, une activiste tunisienne avec ce double regard entre la Tunisie et la France, et puis toujours cette situation post-révolution, et puis une Soudanaise réfugiée lesbienne, et puis une Djiboutienne réfugiée lesbienne depuis 2 ans, et la Soudanaise depuis 1 an. Donc, et pour nous, c'était très important. Et c'était d'autant plus important que, encore une fois, toutes les résistances, qu'elles soient intimes, c'est-à-dire ne serait-ce que pour vivre son amour avec d'autres femmes, et ne pas être inquiétée ou réprimée par rapport à ça, ou que ce soit sur le plan public, être activiste, militer, visiblement ou pas visiblement, mais en tout cas être dans une action matérielle, que ce soit intime ou public, pour nous les résistances sont politiques. Ce sont des résistances politiques. Puisqu'au fond, ce sont des résistances au fait face au système patriarcal, quoi. Mm-hmm. Face en tout cas à l'oppression patriarcale. Et qu'il faut effectivement imaginer, au fait. Imaginer, créer pendant des années, souvent, dans le silence, dans la crainte, une manière de tout simplement de survivre. Je ne peux pas dire vivre. Ça, c'est un vain mot et puis un grand mot hein, pour nous lesbiennes. Mais voilà, survivre. Donc c'était fort de confronter au fait cette vision-là. Voilà.
Lors de ces rencontres, justement, vous abordiez la question, enfin, le difficile accès, en fait, justement, aux lesbiennes, d'avoir le statut de réfugiée. Est-ce que tu peux nous en expliquer les tenants? Finalement, mm-hmm. Elles ne sont pas assez politiques pour avoir le...
C'est-à-dire que la question, en fait, du traitement des demandeuses d'asile sur la base de l'orientation sexuelle... n'était pas si évident que ça. Alors, ça a tendance un petit peu maintenant à changer au niveau de l'OFPRA, donc l'Office français pour les réfugiés et la protection des réfugiés et des apatrides. C'est lui qui statue sur la décision d'asile. Et c'est vrai qu'on se rendait compte que si effectivement les lesbiennes qui étaient en face ne rentraient pas dans un schéma bien défini, c'est-à-dire complètement, complètement visible, mais visible avec des codes, garçons, vraiment des postures de garçons, des postures d'hommes, ou alors si elles avaient déjà un enfant, ou si elles étaient déjà mariées, l'OFPRA ne se posait pas la question de savoir que c'était un mariage forcé, un mariage arrangé, un mariage correctif. Il y a un engrossement de force. Il n'y avait pas toute cette prise en compte de ça. Et souvent, ça se soldait effectivement par un rejet par l'OFPRA. Il a fallu effectivement la mobilisation des féministes et des lesbiennes politiques. Nous, on a fait partie de cette dynamique-là pour insister et dire qu'il faut une approche genre, ne serait-ce déjà que dans l'entretien, c'est-à-dire que l'entretien ne devait pas se faire avec des hommes. Les femmes ne peuvent pas parler de viol. Ne peuvent pas parler d'un engrossement, ne peuvent pas parler d'un mariage forcé, ne peuvent pas parler de ces oppressions-là devant un homme, aussi bien un officier de protection qu'un traducteur. Donc petit à petit, les choses semblent quand même bouger. On sait qu'à l'OFPRA, de plus en plus, les femmes sont plutôt entendues par des femmes. Il y a peut-être des petits problèmes au niveau encore des traducteurs, c'est-à-dire qu'il y a des traducteurs qu'on invite, alors que ce sont des femmes qui parlent. Mais bon, j'ose espérer que ça va encore bouger, la pression est maintenue. Donc voilà, c'était ça un petit peu qu'on relevait, quoi, effectivement.
Et vous avez aussi abordé la question, enfin, il me semble, de l'injonction aussi à la fois à la conjugalité et surtout au retour de l'hétérosexualité pour ces femmes.
Bien sûr. Moi, dans le cadre de l'Ox, on suit effectivement et puis on accompagne des réfugiés lesbiennes. Aussi bien dans la constitution des récits que dans la constitution des papiers, puisque une fois que ces réfugiés ont accédé au statut de réfugiés, elles sont donc statutaires, c'est-à-dire qu'elles obtiennent de la part de l'OFPRA tous leurs documents d'état civil. Et c'est là où on se rend compte que un des documents, c'est effectivement la fiche référentielle de famille. Et cette fiche référentielle de famille qui va après donner qui va permettre après effectivement de donner l'acte de naissance, l'acte de divorce, l'acte de mariage, l'acte de décès, enfin bon bref, tout ça, eh bien il est marqué marié ou pas. Et avec mon amie réfugiée soudanaise, je peux vous assurer que c'était très douloureux quand il fallait écrire ça. Parce qu'il fallait ne pas mentir. L'OFPRA savait que cette femme-là avait subi un mariage forcé, donc arrangé, hein, parce qu'elle avait été découverte lesbienne, etc. Et tout. Et donc il ne fallait pas mentir. Mais en même temps, comment expliquer que non, je ne veux pas que dans mes prochains papiers, où il y a marqué acte de naissance, il est marqué dans la mention légale, ce sont des actes juridiques, hein, je veux dire, ce sont des documents en tout cas juridiques, l'acte légal marqué marié, voire même divorcé, mais toujours marié parce qu'elle n'a pas fourni l'acte de divorce. Donc c'est ce que j'appelle une contrainte au fait à l'hétérosocialité, enfin à l'hétérosexualité aussi, tout comme après, il fallait faire reconnaître comme quoi elle a vécu 10 ans maritalement, ou 10 ans en tout cas avec sa compagne au Soudan, pour se faire établir en fait un papier qui stipule que la réfugiée, donc Madame Tell, était en fait en lien, et que en cas de réunification familiale, c'est-à-dire au moment où elle voudrait faire venir sa compagne, bah que sa compagne effectivement puisse jouir des facilités d'une réunification familiale si c'était hétérosexuel. Mais c'est complètement abscon. Mais même en étant, même en sachant, même quand l'OFPRA lui-même reconnaît que effectivement à cause d'une oppression lesbophobe, elle a dû fuir. Et je lui donne donc le statut de réfugié selon la Convention de Genève de 1951, parce qu'elle rentre dans ce qu'on appelle la catégorie du groupe 1 social, en l'occurrence l'orientation sexuelle, elle lui impose en même temps, dans son état civil, dans son identité, dans son existence, l'hétérosexualité. C'est complètement abscon.
Effectivement. Et peut-être on va faire, dans notre idée d'aller-retour, on va redonner la parole à Amandine Gay, et toujours sur son film Ouvrir la voie, donc sur une autre thématique, mais en dialogue.
Et qui sera suivie d'interventions, en fait, du débat qu'on a pris après. Donc il n'y aura pas que la voix d'Amandine Gay, mais aussi les personnes qui ont fait le film,
dans des discussions autour du film.
La France, c'est le pays où tous les deux ans, on a le droit à soit la graine et le mulet, soit Intouchable. C'est-à-dire que c'est toujours plus ou moins le même film. Donc, et puis à chaque fois, et en fait, il y a la version fiction, puis la version documentaire. Enfin là, j'ai encore vu là le truc. Ça se trouve, le film est bien. Mais la critique Télérama du film de Swagger, c'est le gars de Télérama, il écrit, il a su les apprivoiser, ces jeunes. Et puis j'ai une pote qui a écrit, non mais il y en a marre des safaris en banlieue. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, c'est fatigant d'avoir tout le temps ce regard-là. Il y a vraiment cette question de la mononarration. Et donc, je savais que je l'aurais pas. Je l'ai demandé, je l'ai pas eu. Et puis du coup, voilà, on a commencé en guérilla. Enfin, je veux dire, un documentaire, surtout si t'as déjà le matériel pour tourner, c'est faisable, quoi. Alors en fait, la règle numéro 1 normalement en production cinématographique, c'est que tu ne fais jamais un film avec ton argent. Parce que justement, bah, si ça marche pas, si surtout en fiction. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que celui qui a créé le principe du guérilla filmmaking, c'est Melvin Van Peebles, qui a été un des premiers noirs à être réalisateur à Hollywood dans les années 60-70, et puis qui passait le deuxième ou troisième film où il faisait des films souvent humoristiques, voilà, qui tournaient le racisme en dérision, tout ça. Il en a eu assez marre et il a décidé qu'il voulait faire un film, bon effectivement, où c'est sûr que personne n'a eu de l'argent, où c'était en gros un malfrat noir qui s'en sort à la fin et qui échappe à la police. Bon, c'est toujours autant d'actualité. Et donc du coup, ne trouvant pas de financement pour faire ce film-là, il a décidé qu'il allait le faire avec son argent à lui. Et puis, il décide d'aller en fait le montrer à Détroit quand le film est fini, vu que c'est là où il y a beaucoup de noirs. Parce qu'il pense que c'est un film qui va parler aux noirs. Puis après, le bouche à oreille fonctionne dans la communauté noire. C'est un énorme carton. Le titre de son film, c'était donc Sweet Sweet Back Badass Song. Et le livre s'appelle donc Sweet Sweet Back Badass Song, A Guerrilla Filmmaking Manifesto, qui explique vraiment pourquoi c'est important de choisir l'indépendance totale, si t'as les moyens, tu dois prendre le risque de le faire avec ton argent, parce qu'effectivement, si tu dépends des personnes qui t'oppressent, il y a peu de chances qu'ils te t'aident à faire un film émancipateur. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment inspirée là-dedans, c'était de me dire, je fais un film, je veux que les Noirs viennent voir le film. Et que je pense que c'est aussi un autre gros enjeu en France du cinéma fait par des racisés, c'est que c'est tellement dur d'avoir les financements que l'objectif, c'est que ce qu'on fait plaise aux Blancs. Et c'est pour ça que c'est extrêmement limité, c'est pour ça que même les racisés peuvent s'enfermer eux-mêmes, elles et eux-mêmes, dans des narrations hyper attendues sur la banlieue, tout ce côté misérabiliste, parce que de toute façon, sinon, ils ne seront pas financés. Alors bon, voilà, ça met 3 ans, c'est une galère, puis voilà, moi je suis un peu au bout de ma vie. Mais en tout cas, c'est fini. Et puis on verra, mais la preuve en est avec ce soir et puis les soirées d'avant-première qui sont prévues, c'est que toutes les avant-premières sont pleines et puis qu'il devrait y avoir beaucoup de noirs dans la salle. Et donc, mais ça, c'est un travail aussi. C'est vrai que j'ai orienté tout mon travail vraiment dans cette idée de me dire, ouais, c'est le film que j'aurais aimé moi voir quand j'étais adolescente. Et en partant du principe que on est noir, donc notre expérience aussi elle est universelle. C'est-à-dire que il y a cet autre problème en France, c'est que déjà il faut pas être communautariste, mais en plus il y a cette idée qu'à partir du moment où tu dis que tu fais un film pour les noirs, les gens disent ah merde, ça veut dire que personne d'autre peut venir le voir. Ben non, tu sais, j'ai fait un film pour les gens comme moi. Mais en fait toi aussi quand t'es blanc, tu fais un film comme pour les gens comme toi, juste t'y penses pas en fait. Mais tu penses que tout le monde est comme toi, donc blanc. Moi je le dis parce que je sais que les gens comme moi se voient pas à l'écran, et donc je dis j'ai fait un film pour les gens comme moi qui à mon avis ont envie de se voir comme ça. Puis après tout le monde est bienvenu, c'est un cinéma. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Et comme pas mal en fait de noirs dans le monde, On pense qu'on vit seul certaines injustices, certaines choses, etc. Et c'est aujourd'hui, en fait, que je me permets vraiment certaines choses avec les Noirs. Avec vous, avec les filles, avec d'autres personnes que je ne connais pas dans la rue, et aussi avec mon enfant qui est métisse et avec qui je vais aussi avoir une autre manière de vivre ma parentalité.
Je pense qu'il faut aussi resituer aussi notre contexte. On est dans une époque où il y a un enjeu de la transmission. C'est-à-dire, je le vois même avec mes frères et sœurs, donc on a 6 ans d'écart. Ma sœur a beau connaître, ils savent que je suis afro-féministe, ils savent ce que j'écrive, ils voient mes débats avec mes parents qui ne sont pas forcément d'accord, etc. Et ça n'empêche pas que ma sœur, âgée de 18 ans, qui est une très jolie jeune fille, me dit la semaine dernière, je me sens la plus laide de mon groupe d'amis, et comme par hasard, c'est la seule noire. Et voilà, elle aime pas ses traits, elle se trouve... comme par hasard, c'est toujours les petites choses, genre les hanches qui sont trop rondes, le nez qui est trop rond, les rondeurs parce que c'est une femme noire, c'est des choses qui reviennent. Donc un documentaire comme celui d'Amandine, c'est aussi un outil de transmission. Et quand la violence durant l'adolescence de toutes ces agressions est venue comme un coup de fouet, on n'a pas eu le recul juste après. Là aujourd'hui, mais on a eu le temps d'y penser, on a eu le temps d'en parler entre nous, on a eu le temps aussi de se dire j'aurais aimé qu'il y ait un film comme ça. J'aurais aimé qu'il y ait un film qui me dise si je suis laide, si je me sens laide au collège, au milieu de mes amis blancs aux yeux bleus, c'est construit. 7 à 14, 15, 16 ans, autant un discours structuré, tu vas pas forcément bien le comprendre, mais si je commence à te raconter des expériences, à te donner des exemples concrets, ça par contre tu peux t'y accrocher. Et surtout pour les filles, ça commence vraiment très tôt. L'histoire de la sexualisation, de l'hyperfétichisation, quand j'ai dit que c'est le film que j'aurais voulu voir quand j'étais plus jeune, c'est parce que ça commence très tôt, et c'est ce que dit Marie-Julie dans le film aussi, c'est que le jour où tu te le prends la première fois, tu comprends pas, t'es vierge, t'es pas active sexuellement, et on commence à te dire des trucs, et effectivement, il y a toute cette question, est-ce que je dois faire ça? T'es là genre, est-ce que si je le fais pas, je suis pas une vraie noire? Moi, tu vois, ce film, je le vois comme un truc comme ça, je me dis, les plus jeunes qui arrivent et qui verront ça, t'sais, au moins, elles auront été prévenues. Puis t'sais, après, peut-être ça leur arrivera pas, tant mieux, mais il y a des chances que ça leur arrive. Et je pense que franchement, t'as 14 ans, tu vois ça, t'as compris, quoi.
Barbie. Oui, j'avais que des Barbie. Si la question c'est est-ce que j'avais des poupées noires ou quoi, non. Non, vraiment
et
pas.
Et même tes Barbie, elles étaient blanches?
Ah ouais. Carrément.
Que des poupées blanches.
Des petits, quoi. Entre Dorothée et la Barbie, les blanches blondes, quoi.
Non. Toujours eu des poupées blanches. Que je me faisais une joie de colorier, d'ailleurs. Un peu taré. Moi, je saccageais un peu mes poupées qu'on m'offrait. Donc, à un moment, on a arrêté de m'offrir des poupées, mais je leur coupais les cheveux, je les coloriais. Toujours eu des poupées blanches. Et jamais compris d'ailleurs pourquoi j'ai pas eu de poupées noires. C'est une question que j'aurais dû poser peut-être à mes parents, mais voilà.
J'avais une poupée noire que je ne touchais jamais. Et j'avais plein de Barbie blanches que je touchais tout le temps. Parce qu'elles avaient des longs cheveux et qu'il y avait justement ce mythe un peu des cheveux blonds, des yeux clairs, etc. Et j'ai longtemps voulu ressembler à ce type de Barbie-là.
À un moment, à Noël, la poupée noire, elle était cachée, la Barbie noire était cachée parmi les 150 poupées blanches qui étaient gymnastes, médecins, et l'autre, elle était juste noire, quoi. Elle avait pas de profession. Moi, je suis Barbie noire.
Ouvrir la voie. Donc Amandine ouvre la voie. Moi, pour moi, ce sera un film historique, un docu historique. J'ai des enfants, des pré-ados et adolescents. Donc comme mère, quand on est en France, je peux vous assurer que si vous voulez réellement que l'éducation réussisse, la scolarité de vos enfants réussisse, vous êtes obligé de corriger. Mais quand je vous dis que vous devez être scientifique, vous devez corriger tout ce qui se passe à l'école. Parce que ce qu'on leur apprend à l'école, vous devez corriger, hein. Je ne vous parle pas des religions, de l'histoire de l'esclavage, de tout. Mais je vous assure que vous devez passer derrière. Donc, comme ça a été dit avant, c'est une parole située. C'est vrai qu'en France, nous, on a l'habitude d'être parlé, en fait. C'est toujours des scientifiques blancs qui viennent nous parler, des musulmans voilés,
on ne file jamais la parole pour exprimer réellement le pourquoi on porte ceci ou pourquoi on fait ça. Donc là, voilà, c'est juste des femmes. Bah, nos vies, finalement, pour moi, sont politiques. Hein. C'est vrai que c'est des parties des femmes qui peuvent être très, très intimes de nos vies, mais elles sont politiques, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, quand on est noir en France, voilà quoi, ta vie ne peut plus être privée. Elle ne peut plus être privée, elle doit être publique et elle doit être politique. Parce qu'on n'a pas envie que nos enfants vivent exactement la même chose qu'on a vécu, on a vécu sa chance. Entre-temps, moi, je me suis barrée de France, hein, je vous dis. Alors, sans mes enfants, parce que je me suis séparée, ils sont avec leur père. Je suis partie, ce n'est pas pour dire que l'herbe est plus verte ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a toujours des choses à améliorer. C'est des choses qui sont basiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en Angleterre. Mais ça veut juste dire que bah, tu peux avoir tes chances en ayant une couleur de peau pas normée, en ayant une religion assez rejetée, en ayant une apparence assez chelou, bah, tout le monde a sa chance, quoi. Voilà. Donc avoir la possibilité d'avoir ce documentaire-là, on peut montrer à ses enfants. Moi, personnellement, je vois ça, quoi. Je vois même pas vous là en train de le regarder. Moi, je pense avant tout à mes enfants, quoi. De pouvoir regarder ça, qu'ils peuvent s'identifier, se dire que, ah, bah oui, ce qu'on vit, en fait, nos parents ont vécu avant, et leur permettre, en fait, de le vivre mieux. Voilà. Nos vies sont scientifiques, moi, je vous le dis. Ce qu'on vous dit là, c'est vécu et on n'est pas les seuls à le voir.
Ce témoignage... des femmes que nous sommes sont des outils que l'on peut utiliser de façon tout à fait scientifique. Ces paroles à la marge, justement parce qu'elles sont particulièrement à la marge, enfin, permettent de voir émerger des expériences sociales, sociologiques et qui font science, que les dominants n'ont pas la possibilité de voir à leur place de dominant. Voilà.
C'est comme l'histoire du mot noir, quoi. Beaucoup de personnes vont te dire gens de couleur, black, etc. parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal de dire le mot noir. C'est juste qu'on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas.
Et je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu black. Les gens, ils ne veulent pas dire le mot noir. C'est quand même un problème. Tu peux pas... Tu peux même... pour eux, c'est comme si c'était une injure de te dire que tu es noir.
C'est une stratégie d'évitement. Et je trouve que dans un pays comme la France, qui est tellement attaché à sa langue, qui est capable d'organiser des débats, de voter des lois, sur l'orthographe, on a l'Académie française, enfin voilà. Et je trouve qu'en France, on a du mal à nommer ce qui est perçu comme une différence. Pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique. Donc je trouve que black, ça participe de ça.
Ça, c'est le truc que je rectifie à tout le monde. Si tu me dis black, je dis noir. Tu veux dire noir ? Oui, oui, je suis noire.
À chaque fois qu'on me dit black pour dire noir, ça, je comprends pas non plus. À chaque fois, je me bats. Mais c'est la même chose. Ben non, c'est la même chose, en fait. On est en France. Moi, je t'appelle pas white, donc m'appelle pas black, quoi.
On pourrait très bien dire, oui, les white... Bon, voilà, on pourrait très bien le faire, on le fait pas.
Non, personne n'utilise white, alors que ça choque personne de dire black, même à la télé.
J'ai regardé une série Esprit criminel. Oui, il s'agit d'un black. Pourquoi dans toute une série, tout est traduit en français sauf le mot noir? Et ça, on pourrait compter. Je crois que dans 80% des séries, on a le mot black qui ressort.
J'ai toujours trouvé ça bizarre. Sinon, dans le langage courant, il y a aussi de dire renoir pour éviter de dire noir. En fait, le but de tout ce jeu-là, c'est de ne pas dire noir. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que dire noir, c'est être raciste.
Ça leur fait peur d'utiliser le mot noir. On me l'a dit au travail, oui, mais quand je dis noir, j'ai peur qu'on pense que c'est pour vous insulter.
Voilà, il y a un petit truc qui montre le malaise, le positionnement ambigu. Et voilà, c'est ça que ça reflète. Donc, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire quand on... En gros, tout le monde dit black facilement. Enfin, souvent, on peut dire black facilement. Et on a énormément de mal à dire noir. Qu'est-ce que ça veut dire ?
De retour dans les studios. Sabrine, est-ce que tu aurais envie de réagir sur ce qu'on vient d'entendre là, du coup, dans la salle à Saint-Denis avec les intervenantes du film Ouvrir la voie, qui disaient à la fois le manque de représentation dans l'espace public des femmes noires, le manque de possibilité de s'identifier et, en tant que telle, et à la fois le fait qu'on a toujours l'habitude d'être parlé, pour situer l'une d'entre elles qui disait finalement on parle à notre place, on prend notre voix, et du coup est-ce que tu peux faire écho aussi à aussi ce positionnement que vous avez avec les LOCS?
Pardon. Bah, moi, ça me parle d'autant plus que LOCS même a été créé pour ça, justement. Déjà parce qu'il n'y avait pas, une visibilité concernant d'autres féministes, d'autres lesbiennes of color, du coup. Des noirs, des arabes, voilà. Et puis, ça pose la question de l'invisibilisation. Là, ça veut dire qu'il y a une action, pour moi, un acte, soit conscient, soit inconscient, de dépolitiser ou de ne pas faire exister, ou de ne pas s'intéresser carrément à une existence, à un background, à un parcours, à une histoire, au-delà juste du physique, de l'exotisme, etc. Et puis ça pose l'autre question qui est que on a toujours combattu, effectivement, on a essayé de à travers LOCS par exemple, de rendre visible aussi une expression, parce qu'on avait marre aussi toujours soit de nous objectiver à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur de la, déjà en règle générale dans la société, parce qu'on vit quand même avec tout le monde, même si on est des lesbiennes politiques, on n'est pas une espèce à part. Mais et puis en même temps, à l'intérieur même de milieux féministes et féministes LGBT. Et c'est vrai que on avait marre effectivement d'être invisibilisé, de ne pas exister, et puis d'être objectivé uniquement. Et on avait à cœur de dire non, mais attendez, on existe aussi politiquement. On est aussi un être politique à part entière. Donc toujours ce segment entre effectivement parler de soi, s'emparer de la place, mais s'emparer aussi de l'espace, est quelque chose de très important en fait, bien sûr.
Comment de façon pratique vous avez, chez les LOCS en fait, par tout ce travail-là, vous le faites comment pratiquement en fait? Vous faites des actions ou des débats ou, vous avez des temps de réflexion entre vous où vous discutez, et vous avez des temps aussi où vous dites on va faire ça, ça, ça ou...
Oui, alors on mange pas mal. non, mais c'est y avait une autre origine, au fait. Il y avait une autre source qui inspirait en fait la création de LOCS. C'était pas juste un constat de quelque chose qui n'allait pas, mais aussi de créer, ou à tout le moins de recréer. Donc c'est-à-dire s'emparer en apportant sa pratique militante. Donc effectivement, ça passe par les communiqués. Ça passe par l'écriture, ça c'est extrêmement important parce que c'était une manière aussi de rendre accessible et diffuser au maximum une pensée, une parole, sans pour autant se dire qu'on a le monopole de quoi que ce soit. Hein. Effectivement, on est dans la lutte antiraciste, mais articulée effectivement avec le sexisme, la lutte antisexiste, anti-lesbophobie. Mais en même temps, il fallait un petit peu diversifier les modes. Donc effectivement, il y avait quelque chose qui était pour nous très important, les manifs, mais les manifs non mixtes. C'est-à-dire que en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, on était pas mal dans la rue, et à chaque fois avec une revendication d'avoir un espace féministe non mixte. Et on était très 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 visible, en chantonnant même à un moment donné c'est la lutte des femmes, genre on retransformait au fait voilà quoi, enfin le chant de la lutte internationale et le genre qui devient lesbien, donc c'est pas mal quand même. Si bien que les gars de la CGT étaient à chaque fois ahuris. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Et avec des slogans, mais vraiment intrinsèquement lesbiennes politiques. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, on recréait aussi des événements, comme par exemple le RAL, qui était le Rassemblement d'Action Lesbienne, et toujours encore une fois à la marge de ce qu'on appelle la Pride, qui pour nous était une Pride dépolitisée, ou alors monocolore, ou plutôt capitaliste. Donc ça nous allait pas particulièrement, et du coup on avait ce râle, c'est-à-dire que pour nous c'était une manière effectivement de se rassembler entre lesbiennes ou entre féministes en tout cas, et puis de toujours d'apporter la parole d'une camarade réfugiée ou d'une camarade activiste, et puis marquer nos revendications politiques en termes de lutte contre le racisme, contre le sexisme, et puis c'est aussi une manière de créer des événements tels que le débat dont on a parlé, toujours encore une fois dans cette idée obsessionnelle de dire que la résistance n'est pas juste ici en France ou en Europe. D'ailleurs, nous-mêmes à l'intérieur, nous sommes concernés par des doubles ou triples espaces, ou en tout cas pays, et que par conséquent on a aussi une double, une triple vision. Et donc c'est une manière aussi d'être une caisse de résonance, si j'ose dire, ou un pont ou un lien, modestement, hein, mais vraiment, mais politiquement au moins, avec d'autres camarades féministes et lesbiennes en particulier dans les pays, dans le monde entier, quoi.
Et du coup, vous vous exprimez vous-même tout ça par ces communiqués, les manifestations, mais vous aussi, vous essayez de donner, comme tu disais, la parole à des femmes qui sont pas forcément dans le groupe et qui n'ont pas forcément l'occasion de parler, du coup, par les rencontres que vous avez organisées ou d'autres. Et j'avais l'impression aussi, en t'écoutant, et puis qu'il y avait aussi l'idée vraiment de mettre l'appui sur pas seulement des luttes à mener contre des choses, mais aussi sur les solidarités qui sont en action, et aussi sur des choses voilà, de se renforcer aussi entre femmes, entre lesbiennes, en essayant de trouver aussi ensemble des stratégies pour résister à tout ça.
Ah mais ça c'est sûr, je veux dire, quand effectivement toutes les paroles, au fait, dès lors qu'elles ont été vécues et concernant, sont importantes pour nous, ne serait-ce que pour déjà pour apporter un regard d'humilité sur soi-même, et puis de connaître aussi les parcours des autres, c'est aussi se renforcer, et c'est aussi se permettre mutuellement aussi de se préserver et de créer, ne serait-ce que même ponctuellement, un espace safe, quoi. Ça, c'est extrêmement important. Être lesbienne, déjà, c'est vraiment, honnêtement, je veux dire, j'ai beau m'affirmer lesbienne politique, visible, mais ça a des conséquences, je veux dire, c'est pas facile, quoi, dans une société hétéropatriarcale, de vivre lesbiennement et d'avoir cette vision lesbienne politique. Et donc c'est important effectivement de se retrouver, et je vais plagier, mais j'adore plagier une de mes déesses, mes inspiratrices, Bell Hooks, quoi, qui disait que la sororité était plus une solidarité politique, en fait. Et ma vision et la vision de Locke, ça a toujours dit que la solidarité n'était pas juste matérielle. Elle était transfrontalière, et puis elle était dans la transmission aussi des idées, des stratégies. Moi, je sais que par exemple, quand il y a eu la Lesbo Pride en 2013 à Marseille, à côté de ce qu'on appelait l'Euro Pride, mais qui est devenu l'Euro Crade, enfin bon, bref, on avait tenu effectivement dans cet espace, dans ce moment-là, qu'on a co-organisé d'ailleurs, à inviter d'autres lesbiennes d'Algérie, et avec elles on a continué justement à s'inspirer et à s'échanger pour qu'elles puissent mettre aussi et avancer dans des structures ou des initiatives féministes mais non mixtes, parce qu'effectivement la non-mixité là-bas militante va être un petit peu plus difficile à faire comprendre que ici. Donc voilà, c'est bien sûr que c'est important. La solidarité, c'est pas un vain mot, hein, c'est vraiment une responsabilité politique, me semble-t-il.
Donc, et puis c'est un travail aussi.
C'est un travail au quotidien. C'est nouer des réseaux, mais c'est aussi essayer de construire pour voir ce qui est possible de faire, quoi.
Il y a Amandine aussi qui parlait aussi qu'elle avait fait beaucoup de repas pour pouvoir rassembler un peu toutes les personnes avec qui elle construisait le documentaire, que c'était aussi très important d'essayer
la convivialité
pour avoir aussi, pour après, montrer une parole qui était un petit peu commune,
et puis libérée, ouais. Et surtout une parole libérée, parce que on peut pas créer, on peut pas, si on veut créer des conditions optimales, je dirais, pour libérer une parole, et DS sait que c'est que des femmes qui ont subi des oppressions, voire des multiples oppressions, quand elles se libèrent, c'est extrêmement puissant. Et c'est vrai que la convivialité, la sérénité, safe. Moi, je m'amuse toujours à dire que l'espace LOX, par exemple, est un espace au triple S. Bon, bah, safe, secure, serein. Bon, après, il y a différents S, quoi. Mais... c'est important. Ouais, non, vraiment, c'est important, bien sûr.
Tous les S comptent.
Presque.
Ouais. Même si la notion de safe, après, on va peut-être pas forcément entrer dans le débat, mais c'est pas toujours quelque chose de...
D'évident.
Ah,
ouais.
Mais tout à fait. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, quand on a créé le groupe LOX, il a aussi évolué, je veux dire, de l'intérieur, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé, différentes cultures. Donc il fallait à un moment donné déjà trouver. Voilà, des échanges, des timings, des rythmes, pour que tout le monde trouve sa place. Et puis il y avait des super militantes, comme il y avait des super guerrières, comme il y avait des super des personnes qui, enfin, des camarades qui n'avaient jamais milité. Donc comment, effectivement, aussi safe aussi, c'est créer aussi le fait qu'il n'y a pas de toutes les paroles se valent, au fait. Et toutes les idées se valent, et que c'est pas parce qu'on a un background beaucoup plus avancé que d'autres, ou beaucoup plus d'expérience, qu'il faut minimiser la parole de l'autre. Pas du tout, parce que tout est une récréativité, au fait.
Et que c'est pas parce qu'on est en non-mixité, d'ailleurs, qu'on est en homogénéité, ou enfin que tout.
Ah, mais tout à fait. Là, tout à fait.
On reste avec nos diversités aussi de points de vue, de parcours, d'habitudes.
De statut social aussi, j'imagine que vous venez de différents milieux sociaux, différents pays, donc ça...
Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est assez, oui, c'est assez multilingue, multiculturel, multi-origine, mais toujours, comme je l'ai dit, avec cette base quand même, qui est l'histoire, voilà, de l'immigration, du colonialisme, de la mémoire de l'esclavagisme, etc. Il y a ces tensions-là. Sinon, on ne créerait pas, effectivement, un groupe non mixte, quoi, triplement non mixte.
Et ces paroles et ces actions sont d'autant plus précieuses qu'on ne sait jamais ce qui nous attend.
Oh mon Dieu. Non, que, 2017, ouais,
et que
par exemple.
Faut aussi... s'accorder des espaces pour pouvoir continuer à croire et à avancer.
Bien sûr. Des espaces, des alliances.
Des alliances.
Voilà. Non, mais c'est important.
Quelles alliances faire ?
Oh, les alliances sont possibles. Hein. Nous, c'est vrai que on a des alliés après qui sont plus ou moins évidentes, quoi. Hein. C'est-à-dire nos camarades lesbiennes blanches, les camarades féministes blanches. Dès lors que notre philosophie, c'est dès lors qu'on peut aller dans des alliances stratégiques ponctuelles, dès lors que notre organisation d'autonomie militante politique n'est pas bafouée, stigmatisée ou invisibilisée. À partir de là, les objectifs sont clairs, les conditions sont réunies, donc on peut aller vers une alliance. C'est possible, et d'ailleurs il faut, c'est nécessaire des alliances.
Et vous êtes allé la semaine dernière, ou en tout cas toi, aux rencontres qui ont eu lieu aussi à Saint-Denis sur cette question de paroles non blanches et qui reliait aussi des personnes, des collectifs très divers pour visibiliser une parole qui est justement située et qu'on n'entend pas souvent. Est-ce que tu veux...
Le groupe de parole non blanche nous avait invité, du coup, avait invité le groupe LOX, et donc j'ai eu l'extrême plaisir, d'y aller avec mon autre camarade Zolan, artiste musicienne, membre de LOX. Et c'était revenait toujours quand même cette question-là, c'est-à-dire la question des stratégies, la question des alliances, comment effectivement on peut se retrouver autour de cette question, notamment des sexualités diverses, etc. Après, sur la question des stratégies, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire on ne peut pas avoir une stratégie si on n'a pas d'abord une vision, en fait. Il faut déjà que nous, entre off-color, dit LGBT, QI, effectivement, off-color, déjà sur son force, pour qu'on puisse effectivement être au clair par rapport à cette question-là, parce que la question, après tout, quand on est off-color et qu'on est LGBT, bah, c'est une autre aussi spécificité. Et puis quand on est femme et LGBT off-color, bah, c'est aussi une autre spécificité. Et que si effectivement la lutte contre le racisme ne prend pas en compte effectivement cette articulation-là, c'est vrai qu'on ne va pas se renforcer, en fait. Voilà, ça tournait. Voilà, il y avait pas mal de thèmes, et puis on essayait d'échanger comme ça. Donc ça, c'était plutôt cool.
Des bons moments quand même.
Bah, des bons moments, ouais, toujours. Mais la non-mixité procure toujours des bons moments, donc et la triple non-mixité encore plus.
Vous vous réunissez à peu près tous les, enfin, de façon régulière
Alors, on essaie, oui, effectivement, de se réunir régulièrement, c'est-à-dire on a des réunions. Et puis on a des réunions avec des commissions quand on s'approche quand on entame l'organisation d'un événement, comme ce fut le cas pour le débat du 19 novembre et comme ça sera le cas pour la préparation de la fête LOX au printemps, probablement entre mars et avril 2017, qu'on attend impatiemment parce que du coup les deux sessions précédentes 2014 et 2015 c'était 150-180 personnes en soirée qui commençaient effectivement vers 20h qui se terminaient à 7h du matin, après pour les plus tardives bien évidemment vers 13h, 14h, 15h donc, et tout ça en pleine non-mixité, c'est génial, c'est juste génial, les filles sont heureuses, les camarades sont excités, mais au sens mais vraiment positif, il y a des good vibes. Ah ouais, non, c'est ça, quoi. Non, c'est trop beau, quoi.
Du coup, vous êtes toutes partantes pour remettre
ça. Ah ouais, ouais, 2017. Ouais. Ah bah oui, il y a fortiori en 2017, avec tout ce qui nous attend. Oui, entre Fillon, extrême droite, et puis la gauche, qui n'est pas une gauche. Ouais.
Et pour vous retrouver, on peut vous retrouver, avoir des informations sur vous sur Internet, ou si des gens veulent vous contacter ou...
Alors pour les plus curieuses, comme vous et Pauline, parce que j'ai vu que Pauline avait fait énormément de recherches, facile. Donc non, mais sur Internet, on tape LOX, on tape Lesbian of
donc
Color.
L-O-C-S, ou... Ouais.
Voilà, ou Lesbian of Color. Sans le S. Et là, il y aura des choses. À cause de petits moyens, on n'a pas malheureusement d'internet, mais c'est en cours un blog. Et sinon, il y a l'adresse email espace espace.locs@gmail.com. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure notre émission, donc Langue de Fronde sur FPP 106.3 FM.
Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin, Sabrine ? Il nous reste quelques minutes pour se dire au revoir.
Non, mais j'étais ravie de faire une émission avec des politiques, des féministes politiques. C'est génial. Bah, merci beaucoup, en tout cas.
Merci à toi. Et on va finir avec Kazé, Zone Libre.
Et on se retrouve aussi bien vite pour la continuité de notre en janvier. On parlera certainement, on invitera lesbiennes qui dépassent les frontières. Mm-hmm. Et donc je pense qu'on continuera un petit peu la thématique.
Et juste pour rappel, si vous voulez aller voir le film d'Amandine Gay, on vous invite à aller voir sa page Facebook où il y a toutes les dates de diffusion du film, même si c'est complet. Mais il y en aura d'autres.
Allez-y.
Allez-y.
Au revoir.
Salut.
Et restez pour l'écho de Palestine. Ha!
tour que l'on met en quarantaine. Je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne. Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule. Je traîne en ville en bande ou même déambule seul. J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol. Je recherche l'étincelle mais j'ai paumé ma boussole. Alors je bois, je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionne personne et on me traite de hyène sur toutes les ondes hertziennes. On se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme, qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La arme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'ai le ventre à terre et on m'en veut à tort. Je n'ai aucun de leurs critères pour monter à bord. Mon dortoir est autant solitaire qu'en retard. Beaucoup trop près de l'arbitraire et ses avatars. Ce qu'on déplore en clair, c'est que je ne sais pas plaire. Embrasser l'étendard, applaudir en fanfare. Et on me fait dire qu'il faut bannir ma colère. Et puis faire taire mes nerfs à vif et mes nombreux molars. Mon calvaire n'est réduit qu'à un bruit de couloir. Un parcours vulgaire qui manque de bon vouloir. On dit que ma cité n'est pas le défouloir de flics ailés, un triste défilé d'abus de pouvoir. Et mon itinéraire n'est ni mort, ni tout noir, ni bétonné, ni à mille bornes des plus beaux territoires. Mon teint n'est pas non plus maintenu sous le tonnerre. Attendons le meilleur, commençons les prières. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La arme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Allez-y, utilisez la science ou la raison. Criez à l'hérésie, protégez vos maisons. Vivez l'instant présent avec l'air amusé. Et dressez des cloisons pour les faibles et les frisés. Et écrasez quiconque voudrait fouler vos gazons. À chaque carreau brisé, réclamez la prison. Et bâtissez maintenant tous vos propres musées. Car très bientôt vos nuits ne seront plus apaisées. Le climat est pesant, les gens sont épuisés. Veulent les têtes des méprisants sur le banc des accusés. Le projet est séduisant et les larmes aiguisées. Qu'il serait plaisant de tous les saigner à l'île. Vous ne faites plus illusion, vos promesses sont usées. On va venir embraser tous vos salons tamisés. J'ai déjà composé le chant de vos oraisons. Je suis désabusé, j'ai la nausée, pas mal de lésions. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La âme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Que l'on met en quarantaine. Dans ton pas, c'est que... Ville en bande ou même... À la console, je l'ai dit, j'ai fait la boue, étincelle, boussole, je recherche les. Je recherche l'étincelle, boussole, je dois, je ma flemme, je sais, je traîne, je sens, je gêne, ma tête, mes lèvres, ma peau, mes peines, la âme, les dents, mon sang, mes peines, j'habite au loin, en zone, leur peine. Je sais, je traîne, je sens, je gèle, ma tête mêlée, ma peau est pleine, la âme est dans mon sang, mes veines.